Conte de l'Alhambra, aventure du maçon. Il était une fois un pauvre maçon de Grenade qui chômait les fêtes de tous les saints et la Saint-Lundi par-dessus le marché, et qui, malgré sa dévotion, devenait tous les jours plus pauvre et pouvait à peine donner du pain à sa nombreuse famille. Une nuit, il fut réveillé dans son premier sommeil par un coup frappé à sa porte. Il l'ouvrit et vit devant lui un prêtre, grand, maigre, à la face allongée et cadavéreuse. « Ami, dit l'inconnu, j'ai remarqué que vous étiez un bon chrétien et qu'on pouvait, comme tel, avoir confiance en vous. Voulez-vous entreprendre un ouvrage cette nuit ?»«
De tout mon cœur, Seigneur Padre, pourvu que je sois raisonnablement payé. »
« Vous le serez, mais il faut souffrir que l'on vous bande les yeux. » Le maçon consentit à cela et fut conduit par le prêtre à travers plusieurs rues et passages détournés jusqu'à la porte d'une maison où ils s'arrêtèrent. Le prêtre tira une clé, ouvrit une serrure qui semblait tourner difficilement et poussa une porte à ce qu'il semblait très lourde. Ils entrèrent. La porte fut refermée et verrouillée, et le maçon fut amené, en passant par un corridor retentissant et une salle spacieuse, dans l'intérieur du bâtiment. Là, on le délivra du bandeau qui lui couvrait les yeux, et il se trouva dans un patio, ou petite cour faiblement éclairée par une seule lampe. Au milieu se voyait le bassin à sec d'une ancienne fontaine mauresque, sous laquelle le prêtre ordonna au maçon de construire un petit caveau en lui montrant des briques et du mortier préparés à cet effet. Il travailla toute la nuit, mais ne put terminer l'ouvrage. Un peu avant le jour, le prêtre lui mit une pièce d'or dans la main et le reconduisit, toujours les yeux bandés, à son logis.
« Êtes-vous disposé à revenir et à compléter votre ouvrage ?» dit le prêtre.
« Assurément, mon père, pourvu que je sois aussi bien payé.
Alors demain, à minuit, je viendrai vous chercher. »
L'inconnu fut exact et le caveau fut terminé.
« Il faut maintenant, dit le prêtre, que vous m'aidiez à transporter les corps qui doivent être enterrés dans ce caveau. »
Les cheveux du pauvre maçon se dressèrent sur sa tête à ces terribles paroles. Il suivit son conducteur d'un pas tremblant dans une chambre retirée de la maison, s'attendant à voir quelque horrible spectacle de mort. Mais il fut bien soulagé en apercevant trois ou quatre grandes jarres rangées dans un coin. Elles étaient évidemment pleines d'argent, et ce fut avec beaucoup de peine que le prêtre et le bonhomme les enlevèrent pour les placer dans leur tombe. La voûte fut fermée, le pavé replacé au-dessus et toute trace du travail effacée. Le maçon fut conduit hors de la maison, toujours avec le bandeau, mais à ce qu'il lui sembla, par un chemin différent de celui qu'il avait pris les autres fois. Après avoir erré pendant longtemps à travers un labyrinthe de rues et d'allées, son guide s'arrêta, lui mit deux pièces d'or dans la main et lui dit « Attendez ici, jusqu'à ce que vous entendiez sonner matines à la cathédrale. Si vous avez la hardiesse d'ôter votre bandeau avant ce moment, malheur à vous. » En achevant ces mots, le prêtre s'éloigna. Le maçon se conforma fidèlement à ses injonctions et passa le temps en faisant sonner les pièces d'or dans sa main. Au premier coup de matine donné par la cloche de la cathédrale, il ôta son bandeau et vit qu'il était sur le bord du Xénil. Il se hâta de regagner son logis et se régala pendant une quinzaine avec le produit de son travail de 2 nuits, après quoi il se retrouva aussi pauvre que jamais. Il continua de la sorte, travaillant un peu, priant beaucoup, fêtant les 5 jours et les dimanches bien régulièrement pendant des années. Ses enfants grandissaient et ressemblaient à une bande de bohémiens tant ils étaient maigres et déguenillés. Un soir qu'il prenait le frais, assis à la porte de sa cabane, il fut abordé par un riche vieillard, propriétaire de plusieurs maisons, connu par son avarice sordide. Le Richard, fixant sur le pauvre diable ses yeux ombragés par des sourcils épais et froncés, lui parla en ces termes.
« On m'a dit, l'ami, que vous étiez fort pauvre. »«
Je ne puis nier le fait, seigneur. Il parle de lui-même. »«
Je présume en ce cas que vous serez bien aise de travailler et que vous ne serez pas trop cher. »
Aussi bon marché qu'aucun maçon de Grenade.
C'est ce qu'il me faut. J'ai une vieille maison qui tombe en ruine et me coûte en réparation plus qu'elle ne vaut, car personne ne veut l'habiter. Ainsi, je dois tâcher de la faire réparer en gros, seulement pour l'empêcher de tomber et au moindre frais possible.
Il conduisit le maçon à une grande maison inhabitée qui paraissait en effet très délabrée. Après avoir traversé plusieurs salles et chambres vides, ils entrèrent dans une cour intérieure où les yeux du bonhomme furent frappés de la vue d'une fontaine mauresque. Il la regarda un instant, cherchant à débrouiller dans son esprit le souvenir confus que cette fontaine lui rappelait. Il demanda au vieillard par qui la maison avait été dernièrement habitée.
« Que le ciel confonde celui qui l'a occupé le dernier, » répondit le propriétaire. « C'était un vieux prêtre, égoïste et avare. On disait qu'il était immensément riche et que, n'ayant point de parents, il laisserait tous ses trésors à l'église. Il mourut subitement, et les prêtres et les moines se hâtèrent de venir prendre possession de son bien. Mais ils ne trouvèrent que quelques ducats dans une vieille bourse de cuir. » Cependant, le pire des malheurs est tombé sur moi, car ce vilain homme continue d'occuper ma maison sans payer de loyer, et l'on n'a aucun moyen de donner congé à un mort. On prétend que l'on entend toute la nuit un tintement de métal dans la chambre où il dormait, comme s'il comptait encore son argent, et quelquefois des gémissements et des plaintes dans la petite cour. Que ces histoires soient vraies ou fausses, elles n'en empêchent pas moins ma maison de se louer. Aucun locataire ne veut y demeurer.
Écoutez, dit le maçon d'un air assuré, laissez-moi habiter gratuitement votre maison jusqu'à ce qu'un meilleur locataire se présente. Et je m'engage à la réparer et de plus à calmer l'âme en peine qui la hante. Je suis un bon chrétien et un pauvre homme. Le diable lui-même ne me ferait pas peur. « Dût-il m'apparaître sous la forme d'un sac d'argent ?» L'offre de l'honnête maçon fut acceptée avec joie. Il s'établit avec sa famille dans la maison et remplit tous ses engagements. Petit à petit, il la remit en bon état. Le cliquetis de l'or ne fut plus entendu dans la chambre du prêtre défunt, mais il commença à l'être dans la poche du maçon vivant. En un mot, sa fortune s'augmenta rapidement à la grande admiration du voisinage, et il devint l'un des plus riches particuliers de Grenade. L'Église reçut de lui des sommes considérables, sans doute pour l'acquis de sa conscience, et il ne révéla le secret de la voûte qu'à son lit de mort, à son fils et héritier.